Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
Où sont passés les élèves alors que la troisième semaine d'école à la maison commence aujourd'hui? Certains professeurs craignent de plus en plus un creusement des inégalités. Les routiers appelés à garer les camions à partir d'aujourd'hui. Les syndicats estiment qu'ils ne sont pas assez protégés. Et puis la Chine en opération séduction. Pékin livre des millions de masques à l'Europe et n'oublie pas de le faire savoir.
Radio Classique.
Et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
L'école à la maison, semaine 3. Et si pour certains élèves ça se passe bien, d'autres ne donnent plus de nouvelles.
Tous les enfants ne peuvent pas travailler dans les mêmes conditions. Certains n'ont pas d'espace ou pas d'accès à un ordinateur. Victoire Fort, le monde éducatif est donc inquiet du creusement des inégalités.
À Vitrolles, à côté de Marseille, Christophe Doré est directeur d'école.
Une école qui est en réseau d'éducation prioritaire renforcé.
Avec son équipe, il appelle au moins une fois par semaine ses 147 élèves.
Il y en a à peu près une quinzaine avec lesquels nous n'avons pas réussi à avoir de contact. Donc il y a des élèves pour l'instant qui n'ont pas de travail et dont nous n'avons pas de nouvelles.
Pour Marc Leroy, directeur d'école à Nice, le confinement ne fait qu'accentuer des inégalités existantes.
Il y a une fracture numérique, toutes les familles ne sont pas équipées et malheureusement, le décrochage pour certains va s'accentuer et les retards vont s'accumuler.
Ce sont pour les plus petits que l'inquiétude est la plus grande. Le mois de mars, c'est précisément le moment où le déclic de la lecture se produit. Alors pour éviter à tout prix la rupture éducative, Christophe Doré insiste sur le lien affectif qui lie l'enfant à son école.
Entendre la voix de la maîtresse ou du maître, c'est quelque chose qui nous a paru important. L'apprentissage du cadre de la classe, de ce que c'est qu'être élève, oui, ça se perd.
Le ministère insiste, l'objectif n'est pas d'avancer dans les programmes. Les enseignants se concentrent donc sur les révisions. Aucune indication n'a été donnée quant à l'évaluation des élèves pendant cette période exceptionnelle.
Victoire Fort.
Augustin, les routiers appelés à exercer leur droit de retrait aujourd'hui.
FO, CFDT et CFTC demandent aux chauffeurs des secteurs non essentiels de garer les camions. Ils réclament plus de protection face à l'épidémie. Laurent, routier dans un grand groupe de logistique, estime que ses conditions de travail ne lui permettent pas d'être en sécurité.
On pourrait se considérer comme des sacrifiés de la route. On essaie de se protéger au maximum. Tant qu'on est dans le camion, on est assez confiné quand même. Mais c'est effectivement dès qu'on descend du camion pour aller chez les clients, dans une station-service, on a un peu plus de risque. Donc dès qu'on trouve des sanitaires, on se lave les mains au maximum dans la journée, quoi. Le souci, c'est que les restaurants routiers sont fermés, les douches, les sanitaires, on n'y a plus accès. Plus c'est compliqué pour rouler, pour se laver, pour charger, pour décharger, plus il y aura des conducteurs qui vont prendre leur droit de retrait. Demain, si tous les camions s'arrêtaient, on aurait des gros soucis dans notre pays. Il faut trouver des solutions si on veut que l'économie survive le temps du coronavirus.
Propos recueillis par Eric Cuoche.
Alors les routiers demandent notamment des masques de protection, mais ils manquent en France.
Notre pays n'en produit que 8 millions par semaine, un cinquième de ce qui est nécessaire. Alors 5 500 000 sont arrivés hier soir à Roissy, arrivés de Chine. Un pont aérien a été mis en place avec le pays samedi. Le gouvernement français a passé une commande de plus d'un milliard de masques qui seront notamment produits en Chine. Hugues Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de Radio Classique à Bruxelles. Si cette aide sanitaire de Pékin est très importante pour l'Europe, c'est aussi une opération de propagande à laquelle les 27 ont du mal à riposter.
Oui, la mise en scène par la Chine, mais aussi par la Russie, commence effectivement à agacer ici à Bruxelles. Mais soucieuse de conserver de bonnes relations avec des pays dont l'aide est nécessaire, l'Europe ne réagit pas. Il y a une bataille géopolitique sur le terrain de la communication. Reconnaissez cependant vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel. Le cas de la Serbie est éloquent. L'arrivée à Belgrade de matériel médical chinois a fait l'objet d'une spectaculaire mise en scène, tandis que le président serbe se livrait à une violente diatribe contre la supposée absence de solidarité européenne dans les fait, c'est pourtant l'Europe qui tient à bout de bras, matériellement et financièrement, le secteur sanitaire de ce pays des Balkans. Mais on comprend mieux la stratégie chinoise quand on sait que la Serbie est d'une tête de pont des intérêts économiques de la Chine en Europe. Il est évident que c'est un plan à très long terme que mène Pékin. En Italie, c'est l'aide de la Russie qui pose question. Moscou a envoyé plusieurs dizaines d'experts militaires en bactériologie. 80% de cette aide est inutile, selon une source gouvernementale italienne qui s'est dit très préoccupée par cette présence militaire non dénuée d'arrière-pensée. De très hauts gradés craignent, eux, que la crise sanitaire se transforme aussi en affaire politico-militaire.
Et merci Hugues Baudouin en direct de Bruxelles pour Radio Classique.
Radio Classique, justement, 8h05 en Italie. Augustin, il y a désormais près de 11 000 morts.
Après 3 semaines, les mesures de confinement commencent à produire des effets. La contamination ralentit. Aux États-Unis, là où il y a le plus de cas recensés dans le monde, le conseiller du président Donald Trump estime que le bilan pourrait atteindre entre 100 et 200 000 décès. Un hôpital de campagne est en cours de construction à Central Park, en plein cœur de New York, principal foyer dans le pays.
En France, le virus a fait plus de 2600 morts et 4 632 patients sont en réanimation.
Ce matin sur Radio Classique, la mise en garde de Gilles Pialou, chef du service de réanimation à l'hôpital Tenon à Paris. La maladie peut évoluer très rapidement et il faut rester très vigilant, même si on a l'impression d'aller mieux.
Ces formes graves sont très particulières parce qu'on a des patients qui vont être hospitalisés parce qu'ils ont éventuellement besoin d'un petit peu d'oxygène et qui vont se dégrader de manière assez caricaturale entre le 7e et le 10e jour. Il va y avoir une réponse immunitaire extrêmement forte, voire excessive. Et c'est vrai que cette dégradation, elle correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir. On peut avoir un patient qui, par exemple, le matin a 2 litres d'oxygène, puis va avoir besoin de 2 litres de plus, et en début d'après-midi, il va se retrouver intubé, ventilé en réanimation. C'est quelque chose de très choquant dans la rapidité avec laquelle ceux qui vont passer à la forme grave vont le faire.
Gilles Pialou, chef du service de réanimation de l'hôpital Tenon avec Rémi Pfister. Dans les Hautes-Pyrénées, un homme s'est tué hier en bravant le confinement. Il a entrepris une randonnée en montagne et il est tombé lors de sa descente.
Augustin, avec l'épidémie, les boîtes aux lettres restent vides. Il n'y a plus que 3 tournées par semaine à partir d'aujourd'hui.
Les mercredis, jeudi et vendredi, une décision dramatique de la Poste pour les éditeurs de presse. Ils ont besoin de livrer leur quotidien tous les jours, évidemment. Lauriane Toulmont.
Il faudrait au moins distribuer le courrier un jour sur deux, réclame Sandrine Thomas, directrice des rédactions du groupe Centre France et rédactrice en chef du journal La Montagne, quitte à trouver d'autres moyens que la poste pour acheminer les journaux.
On est en train de se rapprocher de mairies qui nous ont appelés en disant on distribue des repas, on peut se faire le relais, vous pouvez porter les paquets de journaux chez nous. Et nous les livrerons directement dans les boîtes aux lettres.
Pour écouler ces stocks de journaux dans un Paris confiné, Saïf Ibrahim, chef d'équipe de vendeurs à la Criée, a dû changer de stratégie.
On se met dans les boulangeries. Les vendeurs, ils sont on leur met une table. Ils sont à distance de 1 mètre, 1,50 mètre des clients. Ils sont masqués, ils ont des gants, ils ont tout ça. On avait à peu près 150 vendeurs tous les jours. Là, on est à 50-60 sur toute l'île de France. On vend quand même, mais on a perdu 50% des ventes.
Restent les kiosques à journaux. Isabelle Hazard, directrice commerciale de Prestalis, le principal distributeur des journaux et magazines en France.
Vous avez 3300 points de vente fermés sur 22 500. À Paris, vous avez beaucoup plus de points de vente qui sont fermés, puisque vous avez notamment tous les relais des gares et des aéroports qui sont fermés, et aussi 60% des kiosques parisiens.
Et avec la fermeture de ces points de vente, la presse française accuse une perte de chiffre d'affaires de 19%.
Lauriane Toulmont.
Merci Augustin. Le journal de 8h présenté par Augustin Lefebvre que nous retrouverons à 9h, 8h08 sur Radio Classique. Je vous rappelle que mon invité dans quelques minutes sera la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse et auparavant Guillaume Tabar pour son édito. À tout de suite.